Bouillon de lecture. Bouillon de lecture, votre émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer pour vous donner éventuellement envie de le lire à votre tour et se tranquillement installer chez vous en écoutant la lecture d'extraits choisis par Hervé ou Catherine. Et aujourd'hui, en l'absence de Catherine, ce sera Hervé. Bonjour Hervé.
Bonjour. J'ai choisi de lire un livre qui s'appelle « La décision » de Karine Thuil. Donc « La décision » publié en 2022 aux éditions Gallimard. Dominique, est-ce que tu m'autorises à en faire le résumé ?
Je t'autorise.
Eh bien, en mai 2016, une juge antiterroriste qui s'appelle Alma Revel, c'est son nom, doit se prononcer sur le sort d'un jeune homme suspecté d'avoir rejoint l'État islamique en Syrie. Un jeune homme qui s'appelle Abdel Jalil Qassem. Alors, ces noms, Alma Revel et Abdel Jalil Qassem, sont des personnages inventés. Mais extrêmement réels et très vraisemblablement inspirés par des personnes existantes, on peut penser. Donc, ces deux personnages, là, Alma Revel et Abdel Jalil Qassem, sont les deux personnes les plus importantes de ce roman. Et il y en a d'autres, évidemment. Mais c'est eux qu'on retrouve le plus. Voilà pourquoi, dans les choix, les sélections d'aujourd'hui, j'ai choisi toujours des extraits avec ces deux personnes. Voilà. Et je vous propose pour l'instant de commencer par vous présenter Madame la juge, Alma Revel, et la dure réalité de son métier. J'avais à peine 24 ans quand j'ai été confronté à la dureté du métier de juge d'instruction. Les faits étaient épouvantables. Une petite fille de 6 ans avait été retrouvée poignardée dans son lit. C'était son père qui l'avait découverte à son réveil. La mère avait disparu. Il avait appelé la police. Les enquêteurs l'avaient cherché partout, dans les forêts voisines, les caves inhabitées, les morts terrains. Ils avaient retrouvé son corps échoué au bord d'un lac. Elle était morte noyée. L'enquête avait conclu qu'elle s'était suicidée après avoir tué son enfant dans un accès de folie. Pourquoi ? Comment ? On ne le saura jamais. Il faudrait vivre avec le mystère de ce passage à l'acte. Je devais annoncer à ce père, ce mari détruit, la fin de la procédure. J'étais si jeune. Avec quel ressort psychologique allais-je arriver au bout de mon entretien ? Je revois cet homme en larmes, je revois la greffière et l'avocate en larmes aussi. J'ai dû trouver la force et les mots, ça a été terrible, mais je l'ai fait. J'ai intégré l'antiterrorisme 8 ans après les attentats du 11 septembre. J'interrogeais des hommes, des femmes, dont certains avaient chanté et dansé devant les images de l'effondrement des tours, qui désavouaient la version officielle et criaient au complot. Depuis 1995, il n'y avait pas eu d'attentat en France. Et en 2012, un terroriste islamiste de 23 ans tuait successivement 3 jeunes militaires en civil avant de pénétrer dans une école juive, arme à la main, pour assassiner 3 enfants et le père de 2 d'entre eux. À cette époque, j'ai accepté de devenir coordonnatrice du service en mémoire de ces enfants. J'étais révolté contre l'immobilisme étatique, la lâcheté et l'aveuglement de la société. Je voulais comprendre comment on en était arrivé là. Le tueur n'était ni un fou ni un psychopathe, mais un jeune délinquant, hâbleur, frimeur, qui volait des motos pour faire des rodéos. Qu'un jeune homme comme lui, un profil que les services de renseignement avaient même songé à recruter, fut capable de tuer des jeunes de son âge, puis le soir même d'aller manger une pizza avec son frère et sa sœur, avant de viser de sang-froid 4 jours plus tard des enfants dans leur école, des enfants dont l'un avait encore la tétine dans la bouche, montrait qu'il n'y avait plus de limite à la barbarie et pas de moyen sûr de déceler le risque d'un passage à l'acte. Il était armé. Il avait discuté pendant plus de 20 heures avec les négociateurs du RAID et de la DCRI sans montrer aucun signe de faiblesse, sans reddition possible. On ne parlait que de ça dans le service. Est-ce que des erreurs avaient été commises? Et lesquelles? On ne comprenait pas grand-chose à l'époque, on était perdu. Mais à partir de là, on a travaillé sur toutes les filières. En 2015, on n'a fait que prendre des coups. On se démenait pour essayer de déterminer comment les réseaux djihadistes s'étaient organisés. C'était une période très dure. Il nous a fallu tout inventer. Mais on a commencé à savoir traiter ce type de dossier. Dès le début de l'année, le 7 janvier 2015, on a dû faire face à l'attentat de Charlie Hebdo. Les tueurs étaient morts, on n'avait aucune idée de la façon de retrouver les complices, on ne se doutait pas de ce que c'était que le début. Le lendemain, il y a eu l'assassinat d'une policière à Montrouge et 24 heures plus tard, la prise d'otage de l'hyper-cachère, les clients abattus lâchement, les assauts simultanés du raid. En 3 jours, notre pays s'est écroulé. C'est à cette époque que François est arrivé en renfort. Il avait été jusque-là été magistrat de liaison en Espagne. Nous étions alors une petite bande de 3 juges très soudés parmi les 11 qui constituaient le service. Éric Macri, 53 ans, fils d'un couple de médecins d'origine argentine, qui avait participé à la création du pôle « Crimes contre l'humanité » en 2012, avant de nous rejoindre. Isabelle Dandigné, 50 ans, qui avait longtemps officié au pôle financier avant de siéger comme juge assesseur dans de nombreux procès d'assises, et moi. On était très proches, on parlait beaucoup de nos peurs, de ce qu'on ressentait, on avait besoin de partager cette expérience hors norme. Quelques mois après, alors qu'on sortait à peine la tête de l'eau, les attentats du 13 novembre nous ont plongés au cœur du chaos. Une série de fusillades et d'attaques suicides avait été perpétrée dans la soirée à Paris et dans sa périphérie par 3 commandos qui appartenaient à l'État islamique, causant la mort de plus de 130 personnes et des centaines de blessés. Le Stade de France, des cafés parisiens et la salle de spectacle du Bataclan avaient été visés. Des symboles d'une France jeune, moderne, ouverte, festive. Je me souviens des dépêches et des SMS qui tombaient en continu, du sentiment de fin du monde. Le procureur général du parquet antiterroriste et nos collègues avaient été envoyés sur les lieux du drame en première ligne. Ils en étaient ressortis fracassés, mutiques devant les psychologues dépêchés sur place. Un mois plus tard, je pénétrais à mon tour au Bataclan, accompagné de François et d'Isabelle. Tout avait été mis sous scellé, mais les lieux étaient encore imbibés de sang. Tu entres et tu as en tête la scène de carnage. La mort s'insinue partout. Tu pourrais la palper, elle te pénètre et t'entaille. Tu entres entravé par ton histoire, ton identité sociale, politique. Tu sors et tu comprends que ton être a été déformé, contaminé. Tu ne seras plus jamais la même. Le récit national de la violence, nous l'écrivions collectivement. On essayait de tenir, de se montrer réactif, efficace, mais on était brisé. À partir de 2015, on a tout judiciarisé. Dès qu'il y avait un départ pour la Syrie, on ouvrait une enquête pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste. On ne triait plus. On s'est mis à faire du préventif sur tout le monde. C'était limite de la vengeance. On incarcérait mineurs, majeurs. On vivait dans l'angoisse. On n'en dormait plus. On se réveillait avec la peur au ventre et on se couchait avec un Lexomil. Les cas de conscience étaient quotidiens. Après un attentat, je recevais les familles des victimes. Elles réclamaient des coupables qui généralement étaient morts. Pour apaiser leurs besoins de justice, je maintenais en détention, parfois pendant des années, des gens dont la faute était d'avoir eu, à un moment donné, un lien lointain, incertain, avec les auteurs des crimes. En agissant ainsi, étais-je juste? Je leur expliquais qu'il valait mieux un non-lieu maintenant qu'un acquittement au terme d'un procès difficile dont elles sortiraient détruites. Je n'osais pas leur dire que faire condamner un innocent n'allégerait pas leur peine. Mais les familles des victimes n'acceptent jamais l'absence du coupable et leur verdict est sans appel. Si vous le libérez, c'est comme si des miens étaient morts pour rien. Les terroristes islamistes représentent 90% de notre contentieux. Leur propagande avait trouvé la manière d'exploiter les failles de notre société. Mais nous avions aussi des terroristes d'extrême droite, d'extrême gauche. On vivait avec une menace permanente au-dessus de la tête. Quand un attentat se produisait, on s'appelait entre juges. « Tu crois que c'est qui ?» On cherchait des informations sur l'auteur. On voudrait savoir s'il était connu ou non à l'instruction, si l'un d'entre nous l'avait déjà interrogé. Notre angoisse, c'était de ne pas avoir interpellé quelqu'un qui était passé à l'acte.
Something in a way she moves attracts me like no other lover. Something in the way that she woos me. Don't want
just think of her and so
in a face that she shows me. I don't want to leave her now, and better believe in how.
Donc, on l'a compris, ce bouquin nous entraîne dans le quotidien des juges d'instruction antiterroristes. Et on peut mettre au pluriel, parce qu'on a compris qu'ils étaient une petite équipe. Il nous entraîne vraiment au cœur de l'âme humaine, dans les replis vraiment les plus sombres. Et pourtant, je trouve, moi, à lire le livre, que ça n'empêche ni l'espoir, ni la fraternité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les deux personnages, là, hein, Abdeljalil et la juge, sont des personnages inventés. Mais Karine Thuil s'est beaucoup documentée et elle s'est plongée au cœur des attentats de 2015. 2015, c'est l'unité de temps. 2015, ça a été une année terrible, pour la France, vraiment. Hein. Oui, elle l'a redit, Charlie Hebdo, l'hypercacher, le Bataclan, et je rajouterai le petit Cambodge aussi, il ne faut pas l'oublier celui-là non plus. Avec minutie et beaucoup de précision, puisqu'une partie de ce roman consiste à retranscrire les minutes des auditions, les minutes, ce sont les interrogatoires du juge. Karine Thuil suit, jour après jour, l'interrogatoire donc d'un jeune musulman, Abdeljalil, qui jure, évidemment, de son innocence. Il n'a rien fait. Donc le questionnement est, qu'est-ce que je fais ? Je l'enferme parce qu'il risque d'être dangereux pour la société ou je le laisse en liberté parce qu'il n'a rien fait. Reconnaît Dominique que c'est un sacré questionnement.
Un sacré dilemme.
Oui, sacré dilemme. Karine Thuil donne à la juge antiterroriste, malgré l'extrême difficulté de son métier, une humanité indéfectible. Et cette humanité se révèle d'abord dans la difficulté à écouter les victimes. Je suis comme les autres, ni meilleur ni pire, pas mieux préparé aux tentations de l'existence. Au bout d'un certain temps de vie commune, pourquoi se mentir, une lassitude s'installe et on se surprend à rêver ailleurs. Certains franchissent le pas, d'autres renoncent pour préserver une stabilité illusoire, par sens moral peut-être, sans trop y croire. Dans les deux cas, ça devient rapidement déceptif. Le délitement d'un couple, c'est une expérience tragique. Je pensais que je saurais résister, que je ne sortirais jamais des zones balisées, que je pourrais dire non, m'éclipser au bon moment, c'est-à-dire avant de souffrir. Je me suis trompé. Ça, c'était avant les traitements médicaux, la naissance de mes enfants, les nuits blanches, la fin programmée du désir. Et un jour, moi aussi, j'ai succombé, par peur de la mort, de l'ennui, de l'inertie. Il avait suffi de pas grand-chose pour que je bascule. Je crois que j'ai eu envie de décevoir les attentes que les autres avaient projetées sur moi. J'étais alors convaincu qu'on ne pouvait pas être heureux sans exercer sa liberté, au risque de l'erreur, au risque de la solitude. Est-il juste de dire la vérité à quelqu'un quand on sait que cette vérité le fera souffrir ? Qu'aurais-je dû répondre à Ezra ? Oui, j'ai eu une liaison il y a quelques mois avec un avocat pénaliste de mon âge, Emmanuel Forest. Pas une simple aventure, non, une histoire d'amour. Et je n'ai pas eu le courage de te quitter. La légèreté, la déloyauté, les artefacts de la société contemporaine, je n'étais pas formaté pour ça. Quand j'ai rencontré Emmanuel, j'étais absorbé par mon travail. Je ne pensais plus au sexe autant qu'avant. Non, ce n'est pas exact. J'y pensais avec un détachement de façade, comme quelque chose qui ne devait pas être prioritaire dans ma vie. Je me persuadais que mon activité professionnelle occupait tout l'espace, mais je savais au fond de moi, on le sait tous instinctivement, qu'il faudrait un jour payer le prix de cette résignation. On a beau éloigner le désir sexuel de son univers mental, faire comme si on pouvait s'en passer, le contenir, il finit toujours par vous sauter à la gueule, et ça, quel que soit l'âge et la condition sociale. Je ne cherchais pas une aventure, surtout pas avec un avocat. Il y a une règle tacite. Rien n'interdit à un juge d'avoir une relation amicale, amoureuse avec un avocat, mais dans les faits, vaut mieux s'abstenir. Ça évite les problèmes, en particulier quand on a des dossiers en commun. Il peut y avoir des conflits d'intérêts. J'ai toujours veillé à garder des relations strictement professionnelles avec tout le monde, et en particulier les avocats. Il y a une méfiance, des antagonismes, ils sont soumis à nos décisions, ils nous reprochent d'être trop durs, et nous voulons éviter d'être influencés ou manipulés. Nous tenons plus que tout à notre indépendance. Cette méfiance n'exclut pas le respect, la cordialité, parfois l'admiration même ou l'amitié, des connivences se créent. Je me croyais à l'abri de tout dérapage, j'étais d'un naturel défiant, je pouvais être froide, et ce n'était pas qu'une posture. La séduction frontale n'avait jamais été mon mode de communication. L'humour, l'ironie, bien amenée, oui, j'adorais ça, mais pas l'érotisation des échanges par les liens troubles. Le sexe est aussi une affaire de pouvoir, de rapport de force, et je ne voulais pas donner à quelqu'un les moyens de me déstabiliser ou d'exercer une quelconque pression sur moi. Tout cela, bien sûr, c'est de la théorie, c'est de la morale codifiée, mais la vie s'en mêle, les principes s'effondrent et on finit par se trahir. Un avocat issu d'une grande lignée de juristes, batailleurs, médiatiques, un homme à la réputation sulfureuse, connu par ses combats contre les violences policières, les dérives de l'état d'urgence, un homme avec lequel j'étais amené à travailler puisqu'il défendait de nombreux jeunes de retour de Syrie, quelqu'un que j'aurais dû normalement tenir à distance, c'était bien le pire choix auquel je pouvais céder. Je me suis souvent demandé comment j'avais pu tomber amoureuse du seul homme que j'aurais dû éviter. Comment une femme comme moi avait pu se laisser prendre à un piège aussi inattendu, aussi facile. Je ne suis pas dupe, pas naïve, pas romantique, pas idéaliste. Mais j'étais exposée à la douleur. Les gens pleuraient dans mon bureau. Des victimes, des parents de victimes, des parents de détenus, des femmes auxquelles on avait retiré leurs enfants, parfois même les détenus eux-mêmes. J'étais la dépositaire de cette souffrance. Ce que j'essaye de dire, c'est que j'ai eu besoin de cette histoire pour tenir. Cet amour avait été, à ce moment précis de mon existence, une nécessité. Ça s'est passé un soir à l'issue d'un interrogatoire particulièrement éprouvant. Je veux retranscrire quelques échanges pour que l'on comprenne la dimension tragique de ma fonction. Cet après-midi-là, j'avais reçu un couple dont la petite fille de 9 ans était morte dans un attentat. Il n'existe pas de mot dans la langue française pour désigner celui qui a perdu son enfant, alors qu'il y en a un, orphelin, pour celui qui a perdu son père ou sa mère, comme s'il s'agissait d'une situation hors de l'entendement, hors du langage, un statut impossible à définir, à qualifier, un vide moral et juridique. Quand je recevais ses parents ravagés par le chagrin, je devais paraître à la fois présente et solide, faire preuve de tact et de pédagogie, être à l'écoute mais aussi savoir qu'ils pouvaient, en retour, chercher à me déstabiliser. Les parents avaient demandé à me rencontrer, accompagnés de leur avocat. Plus d'un an après le drame, ils avaient appris incidemment, en ouvrant un CD-ROM qui contenait tout le dossier d'instruction, que les organes de leur fille avaient été prélevés au cours de l'autopsie sans leur consentement. On a beau tenter de préserver les familles, leur dire d'éviter la lecture des pièces de procédure, elles fouillent, elles veulent tout savoir. Le jeune père était prostré et c'était sa compagne qui parlait. « Vous vous rendez compte de ce que cela fait de voir le corps de votre fille sur la table de la morgue ?»« Je comprends, madame, je peux imaginer. » « Non, vous ne pouvez pas, ne dites pas ça, plus jamais, ce n'est pas votre enfant, retirez vos paroles, vous ne savez rien. » Est-ce que je devais lui dire que mon meilleur ami, grand reporter à la radio, avait été assassiné par les talibans en 2007 ? Lui avouer que c'était pour cette raison que j'avais demandé à intégrer le pôle d'instruction antiterroriste 2 ans plus tard ? Mais je n'ai rien dit, et je l'ai laissé m'accabler. « Vous parlez de ce que vous ne connaissez pas, taisez-vous. » Je m'étais tu. Je ne voulais pas ajouter mes paroles à sa douleur. « Vous êtes sans cœur, c'est vous qui avez ordonné le prélèvement des organes de notre fille. Et dans quel but ? Non, ce n'est pas moi, ce sont mes collègues du parquet. » Elle s'était effondrée en larmes. Son mari l'avait aussitôt serrée contre lui. « Nous n'avons plus de vie, nous avons tout perdu. » Je les avais consolés comme je pouvais, mais j'étais ébranlé. Leur souffrance me contaminait. Soudain, leur avocat s'était adressé à moi sur un ton forcé, un peu trop officiel. Il était bouleversé lui aussi. « Je vous demande de lever les scellés judiciaires afin que mes clients puissent faire placer les organes prélevés sur le corps de la tombe de leur enfant. » Mais je ne les écoutais pas. J'étais concentré sur mon échange avec la mère. « Je voudrais pouvoir vous aider. Dites-moi ce que je peux faire. » La mère pleurait sous le regard impuissant de son mari, claustré dans une tristesse irrépressible. Je lui avais tendu une boîte de mouchoirs, lui répétant que je voulais les aider, mais elle s'était braquée. « Vous ne pouvez rien comprendre à ce que je ressens. Vous voulez passer pour sympa alors que vous n'en avez rien à foutre de ma détresse. C'est fini pour moi. J'ai de l'eau jusqu'à la tête et j'ai décidé de me noyer. » « Non, c'est ce que vous ressentez. Ça m'affecte. » Certains de mes collègues étaient tétanisés devant l'expression de la souffrance des gens. Ils cherchaient à tout prix à la contourner. Moi, non. Les familles des victimes me posaient souvent la question « « Pouvez-vous me dire si ma femme, mon ami, mon enfant, a eu le temps de souffrir ?» Cette question, je la posais parfois à des experts. Ils me répondaient crûment. Je me souvenais de la famille de la victime d'un crash aérien. La réponse de l'expert m'avait anéanti. Je ne décris pas pour ne pas choquer, je veux simplement que l'on comprenne la réalité de mon métier, la violence de ce qui nous est révélé. Je ne suis pas plus forte qu'une autre, pas plus courageuse. Je subis des interactions humaines sans chercher à en éluder la dureté. Là se cristallise peut-être la gravité de ma fonction. Je veux qu'on sache les nuits d'insomnie, le sentiment de défaite, l'impossibilité parfois de maîtriser ses émotions. Ce moment où l'on pleure en cachette dans son bureau ou dans les toilettes du palais en se répétant que ce métier exige trop de nous. Tout en restant franc, on doit choisir les mots. On propose des réponses empathiques et édulcorées. On ment par omission pour protéger les familles. Et c'est peut-être aussi un peu de nous-mêmes que l'on protège. Tout ce que je sais, c'est que votre fille n'a pas eu le temps de souffrir. Elle est morte sur le coup. Ma fille, peut-être, mais moi, je souffre à chaque seconde de mon existence. Le mari et l'avocat nous observaient sans proférer le moindre mot. Comme s'ils étaient de l'autre côté d'une rive. Je sais, je comprends. Avec le temps, elle m'a foudroyé de son regard plein de chagrin. Avec le temps, rien, c'est des conneries, ça. Je le savais, ma réponse était obscène, mais obscène, on l'est toujours quand il s'agit de consoler un père ou une mère qui a perdu un enfant. Non, vous ne comprenez pas. Quand on perd un enfant, le deuil, c'est la vie qu'on porte. Question du juge. Vous avez affirmé que vous n'étiez pas capable de tuer, mais cela ne vous a pas gêné de participer indirectement à des tueries en rejoignant en Syrie des individus qui avaient pour but de recruter ou de diriger des groupes de djihadistes originaires de France. Qu'en pensez-vous ? Je ne savais rien, j'étais naïf. J'avais entendu dire que l'État islamique commettait des atrocités, mais tant que je n'avais pas rien vu par moi-même, je ne savais pas. Je suis parti car je voulais en avoir le cœur net, par curiosité. Question du juge. Vous êtes en train de me dire que vous saviez que l'État islamique commettait des atrocités et que vous vouliez le vérifier de vos propres yeux, mais dans votre précédente déclaration, vous avez dit que vous pensiez que l'État islamique était le paradis. Vous êtes en pleine contradiction, vous ne trouvez pas ? Honnêtement, je ne savais rien, je vous dis la vérité. Question du juge. Avez-vous vu la prise d'otage de l'hypercachère ? J'en ai entendu parler quand j'étais en Syrie. Question du juge. L'assassin s'est revendiqué de l'État islamiste. Cela aurait pu éveiller votre intelligence, vous ne pensez pas ? On racontait que c'était un complot pour faire porter le chapeau aux musulmans, tout comme l'attentat de Charlie Hebdo, et même le 11 septembre 2001. Question du juge. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressé à l'État islamique ? J'en avais marre de ma vie. Il ne se passait rien de bien. Donc au début, par curiosité, je voulais savoir quels étaient leurs buts, leur engagement. J'ai rencontré un type à la mosquée, il était vraiment pieux, sincère. Ce qu'il disait, ça avait du sens. Question du juge. S'agit-il de Farid Yawawi dont nous vous montrons une photo ? Oui, c'est lui. Il disait que ceux qui partaient étaient des résistants. J'ai fait mes petites recherches sur Internet pour comprendre le but de l'État islamique. Question du juge. Et finalement, qu'avez-vous compris sur place ? Que leur but, c'était de tuer. Tuer au nom de l'islam. On l'a compris dans l'extrait précédent, Karine Thuil a ajouté la narration de son bouquin et les minutes donc des interrogatoires, une histoire d'amour entre la juge antiterroriste et un avocat de la défense. C'est d'ailleurs exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Elle le dit elle-même d'ailleurs. Tomber amoureuse de l'avocat de la partie adverse, ça ne se fait pas.
Non, effectivement, ça pose un certain nombre de questions.
Évidemment, ça pose des questions. Déontologique, évidemment. Alors, on pourrait se dire que cette petite amourette, c'est un truc d'écrivain pour, rajouter une histoire dans l'histoire. Mais en fait, je l'ai sélectionné d'ailleurs, je l'ai lu, parce que cette histoire d'amour entre elle et l'écrivain va rajouter au poids de sa décision. Et donc, c'est très important de rajouter ce personnage.
Ça rajoute un peu d'humanité dans le personnage.
Voilà. Deux courts extraits maintenant pour faire connaissance avec ce jeune musulman, Abdel Jalil Kassem, puis décrire la dure réalité du métier de juge antiterroriste. Abdel Jalil a 7 ans quand le drame survient. Un dimanche matin, le père, dans une crise psychotique, saisit son fils par le cou et le jette par la fenêtre du deuxième étage. La mère est absente. Deux des enfants du couple sont dans la pièce d'à côté. Ce sont des passants qui appellent la police et les secours. Abdel Jalil souffre d'un traumatisme crânien, de multiples contusions, il est placé en coma artificiel. Les services sociaux le retirent de la famille. Après des semaines d'hôpital, on lui trouve une famille d'accueil. Il cesse de parler pendant des mois. Le père est hospitalisé en unité psychiatrique. La mère d'Abdel Jalil demande le divorce. Son fils a 9 ans quand elle le récupère. Elle, abîmée, craintif. Abdel Jalil mène une scolarité moyenne. La mère est fréquemment convoquée pour son comportement agressif. À l'adolescence, il commence un parcours de petit délinquant. Sous l'impulsion de sa mère, il se stabilise un peu, enchaîne des petits boulots, souvent au black. Il a 20 ans, il végète. Mon frère aîné m'avait dit « Pourquoi tu crois que papa t'a balancé par la fenêtre ? Parce que tu sers à rien !» C'est à cette époque qu'il s'intéresse à la religion par l'intermédiaire d'un idéologue charismatique, Farid Yawawi. L'islam m'a ouvert les portes de la vie. Je n'étais plus un raté. Il fait la connaissance de Sonia Dos Santos par Internet, l'épouse, et lui fait un enfant. Sonia Dos Santos vient d'une famille portugaise qui a émigré en France dans les années 70. Les parents sont des catholiques fervents, ils ont 4 enfants, Diego, Guido, Sonia et Rosa, de 2 ans sa cadette. La mère est coiffeuse dans un centre commercial de Rosny-sous-Bois. Le père, garagiste à Aulnay, ils habitent un F3 dans un HLM d'Épinay-sur-Seine. L'enfance est très heureuse. On manquait de rien, mes parents étaient super, ils s'adoraient et ils nous adoraient. Sonia poursuit une scolarité exemplaire. J'aimais l'école. Mon rêve, c'était d'être une femme d'affaires, de devenir milliardaire. À l'adolescence, tout bascule. Le père est emporté par un cancer du foie en 3 mois. A été l'horreur. C'était comme un immeuble qui tombait sur nos têtes. Je souffrais et je devais aussi gérer la peine de ma mère qui était complètement sous l'eau. Sa mère se retrouve seule, incapable de subvenir aux besoins de ses enfants. Elle se met alors en couple avec un commerçant qui travaille sur des marchés de banlieue. Il l'installe avec ses enfants dans une petite maison en crépi d'Épinay qu'il a restaurée de ses mains. Sonia a 14 ans quand elle fugue, après avoir confié à sa mère que son beau-père abusait d'elle depuis leur emménagement chez lui. Tout ce qu'elle a trouvé à me dire, c'est que j'avais dû le provoquer. Elle trouve refuge dans un foyer pour jeunes mineurs. C'est là-bas qu'elle découvre les rudiments de l'islam et, dira-t-elle, la sécurité, le calme dans ma tête. Elle décide quasiment du jour au lendemain de se convertir et de se voiler. Je me sentais respecté. Avec mon voile, j'étais intouchable, invincible. Je me sentais bien, protégé de tout. Abdel Jalil se rapproche de plus en plus de Farid Yayaoui à la mosquée où il prie. Il croyait que je pouvais faire des choses, me remettre sur les rails de ma vie. Il m'a donné confiance. C'est lui qui les incitera à partir en Syrie. Abdel Jalil et Sonia organisent discrètement leur départ sans en informer leur famille. Prennent un vol jusqu'à Istanbul. De là, ils se rendent à Gaziantep, où ils passent 2 nuits. Un matin, ils sont emmenés avec 2 Marocains en taxi, puis en camionnette. Le chauffeur les dépose devant une maison à l'intérieur de laquelle se trouvent 10 de personnes de diverses nationalités, hommes et femmes. Au milieu de la nuit, ils repartent à bord de 2 camionnettes, en laissant leurs bagages sur place. Après une heure de route, ils arrivent sur un terrain vague, marchent 1 kilomètre à travers champs, avant d'atteindre un village à l'entrée duquel se trouve un drapeau de l'État islamique. 2 hommes armés les prennent en charge pour les conduire dans un grand bâtiment. Ils peuvent enfin se reposer. Le lendemain matin, ils sont appelés chacun leur tour pour remettre leurs pièces d'identité et leurs objets électroniques. Une fois les formalités administratives achevées, ils montent dans un minibus qui les conduit avec leurs autres compagnons de voyage, d'abord dans une école dans laquelle ils restent 2 ou 3 heures, puis à Raqqa. Leur route se sépare. Sonia part avec d'autres femmes dans une grande maison. Abdeljalil est emmené au dernier étage d'un immeuble où se trouvent 100 de personnes d'âge et de nationalités diverses. Russes, tchétchènes, philippins, chinois, bosniens, algériens. Le soir même, il est conduit avec les autres à bord de camions militaires. Les hommes armés les déposent dans un nouvel immeuble où ils séjournent 2 jours. Abdeljalil y suit un apprentissage des versets du Coran et effectue des tâches ménagères. À la fin du 2e jour, un homme vient le chercher. Il lui demande de prendre ses affaires et de le suivre. Il affirme qu'il est alors le seul Français et le seul à être appelé. Honnêtement, j'ai pas compris pourquoi et ça m'a fait peur. Il pense qu'on l'a pris pour un espion. J'ai vu ma dernière heure arriver. Il part à bord d'une camionnette. Au cours du trajet, il lui est demandé de baisser les yeux et de ne pas regarder autour de lui. Le conducteur a le visage masqué par un foulard. Il lui pose des questions relatives à son travail et aux raisons de sa venue en Syrie. Abdeljalil explique qu'il est là dans un but humanitaire. La suite n'est pas claire. Abdeljalil dit qu'il a compris à cet instant qu'ils avaient l'intention de commanditer des attentats en France depuis la Syrie. Il cherchait des gens pour ça. J'aurais confié que j'allais avoir un bébé et que je voulais juste aider les blessés. Et après ça, je suis tombé malade. Ils n'ont pas insisté et ils m'ont laissé. Sonia dit que le pays qu'elle a découvert ne correspondait pas à ses rêves. Au bout de quelques semaines, ils décident de fuir pour protéger leur bébé à naître. Ça prouve bien qu'on était clair dans nos têtes. Abdeljalil et Sonia, je les ai longuement interrogés. Ils m'inspirent confiance. Elle surtout. Elle est vulnérable, authentique. Je sens qu'elle s'est retrouvée piégée, qu'elle n'aspire vraiment qu'à élever son enfant. Je veux la sauver. Lui est plus imprévisible, mais je suis alors convaincu que ce caractère insaisissable et son comportement un peu instable tiennent plus à sa réticence à accorder sa confiance après la violence qu'il a subie qu'à une quelconque ruse de sa part. Je pense qu'il est capable de prendre conscience de ses erreurs et de changer, même si par moments, son regard fixe, absent, m'inquiète un peu. Je n'en cerne pas les intentions. Je finis par me convaincre que je dois le juger pour ce qu'il a fait et non pour la crainte de ce qu'il m'inspire. On passe des heures avec les mis en examen pendant des années, des heures compliquées au cours desquelles on manipule une matière noire, dure. À la fin de mon instruction, je dois déterminer si j'ai suffisamment de charges pour que ces individus soient jugés par d'autres. C'est une torture mentale. Est-ce que je prends la bonne décision ? Qu'est-ce qu'une bonne décision ? Bonne pour qui ? La mise en examen ? La société ? Ma conscience ? Question du juge. Il ressort d'une enquête de personnalité que vous avez eu une enfance difficile, que votre père était dépressif, alcoolique, qu'il vous battait. J'ai du mal à en parler. Avez-vous des souvenirs particuliers de vos conditions de vie durant l'enfance ? C'était dur. Vous me demandez si j'étais heureux. Je ne l'étais pas. Mon père avait beaucoup de colère en lui. Il en voulait à la terre entière. Il buvait en cachette. Et ma mère était faible, gentille, mais faible. Mon père, il était brutal. Il traitait ma mère comme sa boniche. J'avais l'impression qu'il ne comprenait rien à ce que je ressentais. Avec ma mère, ça allait plus ou moins. Question du juge. Les relations que vous avez entretenues et décrites avec votre père sont marquées par de nombreuses violences physiques et psychologiques caractéristiques de maltraitance. Vous décrivez sa cruauté à votre égard, c'était affreux, il me détestait. Vos frères et vos sœurs ont confirmé les faits. Abdeljalil était son bouc émissaire. Le confirmez-vous ? Oui, je ne savais pas comment me protéger. Toute ma vie, c'était la violence et encore la violence. Question du juge. Il apparaît que votre grand-mère maternelle aurait prévenu les services sociaux, mais qu'aucune suite n'a été donnée à ses actes faute de preuves. Comment votre mère a-t-elle réagi ? Vous a-t-elle suffisamment protégé ? Elle ne voulait pas voir la réalité. Je crois qu'elle avait peur de se retrouver à la rue avec ses gosses. Question du juge. Vous indiquez avoir reçu une éducation un peu archaïque, attachée à des valeurs anciennes. Vous dites également avoir grandi dans un sentiment anti-français. Expliquez-vous. Les parents de ma mère ont été tués par l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Ça expliquait ce sentiment anti-français. Ils disaient par exemple, « Nous, on ne fait pas comme les Français, on n'est pas comme eux. » Il y avait eux et nous. Vous me demandez pourquoi mes parents sont venus en France. Ben, pour gagner leur vie. L'argent, c'est le nerf de la guerre, non ? Il n'y a que ce qui compte dans cette société, ce que vous gagnez, ce que vous rapportez. Vous me demandez si je me projette en France. Je ne sais pas. Je n'ai rien contre la France. C'est elle qui est contre moi. Question du juge. L'enquêteur de personnalité a noté que vous aviez du mal à reconnaître des qualités à vos parents et que vous ne faisiez état d'aucune tendresse envers ces derniers. Pourquoi ? Mon père m'a fait du mal. Ma mère ne m'a pas protégé et j'aurais dû être tendre avec eux. Si quelqu'un vous mord, vous l'embrassez ? Question du juge. Vous avez décrit auprès de l'enquêteur de personnalité des relations difficiles avec votre père. À cette époque et plusieurs épisodes de maltraitance, vous indiquez que vous l'avez brûlé avec un fer à tisser et mis sur le balcon en slip alors qu'il faisait 0 degré. Oui. Question du juge. Jusqu'au jour où, dans une crise psychotique, il vous a défenestré, vous aviez 7 ans. Mentionnons que Abdeljalil pleure.
C'est drôle, c'est drôle, c'est drôle, on voit bouger des lèvres. Face au miroir, on se demande encore à qui l'on a affaire. Et quelqu'un viendra-t-il un jour accompagner nos silences ? Doit-on croire en cette chance ? Avance, 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 ne retiens pas ta peine. La nuit s'est fait pour épuiser les poèmes. Avance encore ton visage jusqu'à la lumière. Et sous tes pas, des sourires que tu ne vois pas, qui t'éclairent, et ton visage déjà qui se tourne en arrière. Tu ne vas pas là où pourtant tes rêves t'ont guidé. Tu dis c'est pas le moment, et puis le moment d'après, tu dis c'est déjà trop tard. Demain peut-être, mais demain tout redémarre. Tu ne vas nulle part, avance, avance, ne retiens pas ta peine. La nuit s'est fait pour épuiser les poèmes. Avance encore ton visage jusqu'à la lumière. Ils sont devenus quoi tes amis, sont devenus qui ? Ils ont fait des enfants pour combler leur ennui. Mais toi, qu'as-tu appris ? dis c'est pas le moment, et puis le moment d'après, tu dis c'est déjà trop tard. Demain peut-être, mais demain tout redémarre. Tu ne vas nulle part, avance, avance, ne retiens pas ta peine. La nuit s'est fait pour épuiser les poèmes. Avance encore ton visage jusqu'à la lumière. Avance, 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 ne retiens pas ta peine. La nuit s'est fait pour épuiser les poèmes. Avance encore ton visage jusqu'à la lumière. Avance, 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 ne retiens pas ta peine. La nuit s'est fait pour épuiser les poèmes. Avance encore ton visage jusqu'à la lumière. Avance, 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 ne retiens pas ta peine. La nuit s'est fait pour épuiser les poèmes. Avance encore ton visage jusqu'à la lumière. Avance, 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 ne retiens pas ta peine.
Passons maintenant avec ce dernier extrait que je vais lire, si tu le veux bien, Dominique, à la raison d'être de ce titre extrêmement précis et court, La Décision. La Décision. D'ailleurs, au passage, je me suis fait la réflexion que ce titre, il va un petit peu à l'encontre d'une mode actuelle. Tu n'as pas remarqué ça ? C'est-à-dire ? On trouve des titres de plus en plus longs, quand même. Par exemple, La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette.
Ah oui ?
Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Hein, c'est des titres qu'on trouve actuellement. Bon, ben là, La Décision, c'est plus court. Ouais. Et donc, ce titre, La Décision de la juge de devoir ou non enfermer le jeune Kassem. Dans le dossier Kassem, Emmanuel me demandait d'organiser une enquête de faisabilité en vue d'une assignation à résidence sous bracelet électronique. Je devais réunir des éléments qui permettraient de prouver la fiabilité du mis en examen, son sérieux, sa crédibilité, sa capacité à faire ce qu'on exigerait de lui, rester joignable à tout moment en échange de sa libération. Comme toujours, Emmanuel était offensif. Certains de mes collègues le trouvaient même agressif, mais j'aimais bien ça. Je considérais que c'était son rôle de nous déstabiliser, de tout tenter pour sauver son client. L'affrontement est démocratique. Rien ne me décontenançait plus que les avocats qui me donnaient l'impression d'improviser. Emmanuel répétait qu'il n'y avait rien dans ce dossier. Or, pour moi, il y avait des éléments qui manquaient de clarté, à commencer par les fonctions précises d'Abdel Jalil en Syrie, et la formation aux armes qu'il niait avoir reçue, alors que c'était une étape obligatoire pour les jeunes recrues. Quelques mois plus tôt, son co-détenu avait demandé à changer de cellule. « Je veux plus rester avec Abdel Jalil. Il s'énerve sans raison, ou alors il se met à pleurer. Il est instable, psychologiquement. Il essaie de m'endoctriner. Il me lâche pas, c'est un dingue. » Emmanuel s'emportait. « Tu n'as rien de concret. » Voilà la réalité. Je n'ai pas rien. J'ai un faisceau de charges. Tu n'as rien et aujourd'hui, en terreau, c'en serait la manifestation qu'il y a bien quelque chose. C'est kafkaïen. De toute façon, on en revient toujours à la volonté de répression qui est constante chez l'être humain. Je n'ai rien répondu. Je le garde pas en prison. Alma, ça va le bousiller. Il a 23 ans. Il a l'âge de ta fille. Un individu si jeune ne peut pas être réduit à la somme de quelques erreurs. Je le sais, la détention provisoire doit être exceptionnelle. Or, elle devient un principe. La faute à qui ? Tu veux que je te fasse la liste de tous les attentats de l'année écoulée ? ceux qui se sont malheureusement produits et ceux que tes services ont déjoués ? Alors quoi, on enferme tout le monde ? Ne t'inquiète pas, on est dans un état de droit, on essaie de ne pas en faire n'importe quoi, y compris en période d'attentat. La liberté reste la règle, pas l'exception. Oui, en théorie, mais en pratique. Les démocraties ont prouvé leur vulnérabilité en imposant la sécurité comme nouvelle obsession nationale. Nous sommes prêts à sacrifier nos désirs, nos valeurs, à bafouer nos droits pour nous protéger. Mais de quoi ? De la mort, de la souffrance, de la charge agressive de la vie ? En acceptant ce traitement politique, nous avons tout perdu, la sécurité et la liberté. Il avait raison. Je demandais parfois l'incarcération de jeunes de 15 ans, et c'était toujours un cas de conscience, car j'étais convaincu, sans pouvoir le dire publiquement, de l'inutilité, voire de la dangerosité, de l'emprisonnement pour certains profils. De toute façon, tu t'en fous, on le sait tous, nos clients ne vont pas sortir. Et toi, tu prends ton temps. La DGSI te fait tout le boulot et personne ne va te reprocher de ne pas aller assez vite. C'est toi qui as le pouvoir, mais mettre les gens en prison n'est qu'un pouvoir médiocre. J'allais lui demander de partir quand il s'est radouci. Ce que je veux te dire, c'est qu'il faut comprendre l'histoire que ça raconte derrière. Des jeunes qui ont des parcours difficiles, qui ont fait des erreurs et qui réclament le droit à la rédemption. Je partageais ce point de vue. J'avais fait mienne l'ancienne de l'ancien président de la Cour de cassation, Pierre Drey, évoquant les juges qui avaient réhabilité le capitaine Dreyfus en 1906 et dont l'histoire n'avait pas retenu les noms. Il avait écrit « Ils nous ont appris que juger, c'est aimer, écouter, essayer de comprendre et vouloir décider. Comprendre pour mieux juger, ce n'était pas excuser. » Mais je savais aussi que certains étaient irrécupérables, et c'est ce que j'ai affirmé à Emmanuel. « Tu ne peux pas dire ça, et ce n'est pas ce que tu penses profondément, je le sais, je te connais. Tu as été la première à me citer un exemple, en exemple la motion que le syndicat de la magistrature a adoptée lors du congrès de 1985, la nécessité de la suppression à terme de la prison. » « Oui, mais depuis 2012, tout a changé. À la vingtaine... Quand on n'est pas passé à l'acte, on est récupérable. Je n'en suis plus sûr, tu vois. Il y a un an, j'ai eu un client qui a été placé en détention provisoire alors qu'il n'y avait quasiment rien contre lui. La casse-prison a été, pour lui, une expérience très traumatisante. Il en sort dans un état catastrophique. Il vient me voir au cabinet pour régler mes honoraires, puis il disparaît. Je n'ai plus de nouvelles. Un an plus tard, j'apprends qu'il est parti sniper en Syrie. Il s'était radicalisé en prison. Il est mort lors d'un bombardement par les forces alliées. Et tu veux que je pleure sur son sort ? Tu es obligé d'être si dur. Tu exerces un métier dangereux, dangereux pour les autres. N'oublie jamais ça. » C'étaient les mots d'un célèbre magistrat, Pierre Truche, 42 ans plus tôt, en 1974. Un autre magistrat, alors substitut du procureur de la République de Marseille et membre du syndicat de la magistrature, resterait célèbre pour avoir prononcé un texte qui portait désormais son nom, la harangue d'Oswald de Baudot, et dans lequel il prodiguait ses conseils à de jeunes juges, un discours humaniste et réactionnaire qui avait suscité la réserve du garde des Sceaux de l'époque, Jean Le Canuet. Oswald de Baudot fut accusé de manquement à l'obligation de réserve, y avait comparu le 28 janvier 1975 devant la commission de discipline du parquet qui avait recommandé au ministre une réprimande avec inscription au dossier. Face à la mobilisation du syndicat de la magistrature et au soutien de l'Union syndicale des magistrats, la sanction fut retirée par le ministre de la Justice. Toutes mes décisions, je les prenais avec ces mots en tête. Ne comptez pas la prison par année, ni par mois, mais par minute et par seconde, comme si vous deviez la subir vous-même.
Au revoir tout le monde.
Au revoir.
Au mois prochain. Pour de nouvelles lectures. À bientôt.